Je plonge au bon moment. Je ressors au bon moment. J'évite la vague qui approche. Au contraire, je m'en sers. Je me lance. J'ai nagé, j'ai volé. Toi, je sais nager. J'ai nagé, j'ai volé. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur.
Bonjour, vous écoutez Les Parlers de l'eau, une émission radiophonique de l'École de la nature et du paysage de Blois. Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau potable, de la diffusion, de la pollution diffuse des cours d'eau, de l'évolution des cycles de l'eau du fait du changement climatique, de l'évolution des compétences des collectivités locales, notamment avec le transfert de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, mais aussi l'évolution de la gestion du petit cycle de l'eau. Pendant ce temps, le rapport à l'eau quotidienne change chez les citoyens. De plus en plus de riverains et de touristes cherchent un rapport direct à l'eau et à la fraîcheur, notamment du fait d'été de plus en plus chaud et d'un changement des pratiques touristiques depuis la crise du Covid. L'accès à l'eau est donc devenu un enjeu croissant pour les collectivités. Et c'est en direct du Comice agricole de Blois-Vienne que nous revenons ici avec des étudiants de 4e année de l'École de la nature et du paysage sur un atelier pédagogique qui s'est situé toute la semaine pour soulever l'état actuel des parlers de l'eau et questionner son devenir. Comment parle-t-on localement des eaux dans un pays irrigué par la nappe souterraine de Beauce et par les mouvements de la Loire, si touristique? Comment parle-t-on de l'état de l'eau, de la valeur de l'eau, des couleurs de l'eau, du caractère de l'eau? Comment parle-t-on des usages que l'on en a? C'est à travers les langages, les langues, les discours, les mots, mais aussi les silences que nous avons travaillé. Et je laisse tout de suite la parole aux étudiants qui ont participé à cet atelier.
Alors pour le premier enregistrement, on va écouter une production d'Aliénor, qui est un journal de bord.
Mercredi 11 juin, 10h22. Assis autour de la table, dans l'atelier, on se remet d'accord sur les questions, sur l'approche, comment on s'organise. On se renseigne sur qui nous allons voir. Laure Anne Chapelle, directrice du cycle de l'eau. 10h43. Après être partie de l'école, nous sommes maintenant presque arrivés à destination. Dehors, il fait chaud, le soleil tape déjà, l'air est lourd. Près des routes, on essaye de s'habituer, mais on finit par marcher contre les murs et près des arbres. 10h50. Nous arrivons devant le bâtiment de l'agglomération. Cahiers, stylos et appareils d'enregistrement en main, nous rentrons par la porte d'accueil. Déclinons notre venue et attendons patiemment que Laure Anne Chapelle nous reçoive pour l'entretien. Je m'assois dans un des sièges orange de l'accueil. Il fait si frais à l'intérieur. Rien à voir avec la température de dehors. Mon regard circule entre la dame de l'accueil au téléphone, les autres qui attendent devant elle, et à la fin, mon regard se pose. Je regarde Louis au loin de la pièce, se prendre un verre, ceux en carton, qui sont mis à disposition près de bonbonnes d'eau. Il se sert, et l'eau fraîche jaillit directement dans son verre. 11h. La dame de l'accueil nous indique de monter au 2e étage et que Laure Anne nous reçoit dans 5 minutes dans son bureau. Nous déambulons dans les couloirs du département cycle de l'eau, cherchant son nom sur une étiquette plastifiée. Mes yeux sont sans cesse attirés par leur affiche de sensibilisation sur l'eau, avec des grandes phrases comme « Pailler le jardin pour arroser moins » ou « Couper le robinet au fil d'eau ». Un robinet qui goûte, c'est 100 litres d'eau perdue par jour, avec des couleurs flashy. 11h05. Nathalie toque à la porte, où il y a le nom sur la petite étiquette. La porte s'ouvre, une dame, souriante et surprise, nous regarde. Cela ne m'étonne pas, l'effet de surprise est sûrement dû à notre nombre. 5 étudiants qui se trouvent en face d'elle. Carnet, stylo et appareillage d'enregistrement en main. 5 étudiants prêts à lui poser de nombreuses questions. 11h07. Après s'être présentée rapidement, elle nous dit qu'elle doit finir une petite discussion. On l'attend alors devant son bureau. 11h10. Je me permets d'aller vers leur tableau d'affichage, dans le couloir. Les événements à venir y sont inscrits. Des articles de presse, des articles de l'aglo, mais aussi des différentes personnes du département. Ils ont même une petite photo d'eux. Il y a les affiches de tout à l'heure, affichées en plus petit format. On peut dire que le tableau d'affichage est rempli et qu'il se passe beaucoup de choses ici. 11h11. De l'autre côté, leur salle de pause. Il y a une petite table, quelques chaises disposées, une bouilloire et une machine à café. Tout ce qu'il y a de plus normal dans une petite salle de pause. Mais une petite chose me surprend tout de même. Toutes les bonbonnes d'eau, il y en a énormément. Il y a un stock de bonbonnes pleines, un stock de bonbonnes vides, mises dans un coin de la pièce. Cela m'étonne. 11h15. La porte s'ouvre de nouveau. Laure Anne nous accueille dans son bureau. Tous autour d'une petite table ronde, l'entretien commence. 11h45. La discussion est fluide. Pendant les échanges, j'observais son bureau qui était derrière elle. Il ne m'a pas particulièrement marqué, à part son positionnement. Mais je pense que j'ai un problème avec les bureaux faisant face au mur. Elle nous a tout de même montré des petits gadgets pour sensibiliser les gens et qui seront aux commis agricoles. 12h. L'entretien touche à sa fin. Les dernières questions sont posées. 12h10. Nous la remercions et quittons son bureau avec la petite étiquette sur sa porte. Elle nous raccompagne jusqu'à l'escalier. J'ai particulièrement aimé cet entretien. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais il m'a permis de mieux comprendre certaines thématiques et des enjeux de l'eau en général. 12h15. Nous voilà de nouveau dehors sous le soleil. Le contraste est fort, il fait particulièrement chaud aujourd'hui. Pendant que l'on marche, on discute de cet entretien. On évoque nos ressentis, on compare avec ce qu'on a pensé chacun. Petit constat, nous avons tous changé de trottoir pour avoir de l'ombre. 12h18. Je me surprends à regarder les gouttières. Je me demande où sont les tuyaux sous la route. J'essaye de me rappeler où se trouve la fontaine publique de la ville que Lauren Chapelle a parlé. J'essaye de m'imaginer la petite goutte dans cette grande ville.
Nous allons maintenant écouter une proposition sensible et poétique de Chloé.
Chemin de larmes. De grands nuages couvrent le ciel, annonçant un déluge torrentiel. Après avoir longuement crié, les cieux se mirent à pleurer. Des larmes chutent sur la terre, dans un fracas de misère, se friant un passage dans les entrailles de cette terre en tenaille. Certaines amarrent sur l'eau, fusionnant avec les flots, mais la surface menace de devenir si vorace. Alors les terres tremblent, les torrents se rassemblent, et les embruns se forment quand les vagues se déforment. Et les oiseaux s'envolent, les animaux s'affolent, et les arbres frissonnent quand le vent s'époumonne. Quand les ondes se calent enfin, il n'est plus question de chagrin, mais de rosée éclatante, vestige d'une crue irrigante. Et quand les gouttes se faufilent entre les couches d'argile, les nappes phréatiques asséchées retrouvent enfin leur teinte azurée.
Et tout de suite, sans transition, nous allons écouter un enregistrement de Grégory qui a répertorié des réponses spontanées d'étudiants en rapport avec le thème de l'eau.
Quand on dit le mot eau, à quel mot on peut, tu peux penser directement?
Ok. Qualité, quantité et vital.
Fluide.
Pluie.
Neige.
L'eau en trois mots. Barrage. Lac et rivière.
J'aurais dit une ressource. Qualité. Ça, je pense que ça vient avec ma casquette. Et puis, nature.
Fluide. Vie. Et ressource.
Fluide. Ressource. Et vie.
J'aurais dit indispensable. Fragile. Et magique.
Et tout de suite, nous écoutons la proposition de Malo qui va nous faire entendre des citations.
Les mentalités et enseignements ont changé. Mon grand-père connaissait par cœur les fleuves et rivières de France, où étaient leurs sources et où ils se jetaient. Les fleuves sont un des derniers espaces de liberté. C'est un bien commun et ne doit pas être vu comme une ressource. On doit tous avoir accès à l'eau en milieu naturel. La Jussie, c'est trop tard. Elle est trop implantée. Les espèces envahissantes exotiques, il faut lutter. Si on ne retrouve pas le moindre individu de grenouille-taureau dans un an, ça sera la première extinction volontaire d'une espèce en Europe. L'importance des zones humides, elles sont soutien d'étiage. Les réunions publiques, c'est à la demande des riverains, quand ils ne sont pas contents, généralement. Les gens ne comprennent pas notre mission d'intérêt général. Antifragilité égale résilience. Ne pas chercher l'effet spectaculaire, ce sont des images qui s'épuisent moins vite que les images d'actualité. L'eau, une ressource vitale pour nous, mais plus généralement pour l'ensemble de nos activités humaines. C'est tellement évident qu'on n'y pense pas. La photographie, elle, permet de le remettre en avant. C'est une image qui ralentit le regard. Il y a des maisons au fond du Verdon. Il faut intégrer l'histoire pour comprendre le présent. Toute activité de nature a sa part de risque. Et la Loire n'est pas juste un argument marketing. La photo capture l'eau sous une seule forme, généralement sous la forme la plus naturelle. C'est plus complexe. Cycle de l'eau, source à l'estuaire, pollution, traitement. Mais parler de l'eau, c'est aussi rapprocher des usages liés à l'eau que nous ne voyons pas dans notre quotidien. Minerais, production de vêtements, agriculture, etc.
Et désormais, nous écouterons Elisa, suivie d'une balade, l'eau source de dialogue.
C'est l'été, et puisqu'il fait chaud, trop chaud, nous nous rendons au jardin du voisin. Il est en train de remplir sa piscine avec le tuyau d'arrosage. On n'est pas près de s'y baigner dans la piscine. Donc on discute. C'est fait pour ça le jardin. Papoter, échanger et rigoler.
D'une piscine extérieure que j'ai mis dans 15 000 bouteilles pour réaliser ce projet. 400 personnes sont venues sur 3 semaines pour manuellement remplir les bouteilles, les colorer et édifier le mur.
Mais comment faire quand le voisin n'est pas là? C'est toujours l'été et il fait chaud. Trop chaud. Nous nous rendons à la rivière en bas, dans le village, et on parle.
Est-ce que ce cours d'eau, c'est une rivière naturelle dans laquelle la faune et la flore priment? Ou est-ce que c'est un fleuve au service des activités humaines? Toujours est-il que ça génère des tensions plutôt politiques sur le sens et la valeur qu'on accorde à ce cours d'eau.
Le long de la rivière, on croise les pêcheurs, les dormeurs, les promeneurs. Tout est frais, tout est calme. Plus loin, ça discute. Ça nous intéresse, alors on s'approche.
Et puis, le monde agricole, puisque c'est vrai que le monde agricole, forcément, même eux le reconnaissent, il y a de l'impact. Donc c'est facile, de notre position, d'avoir cet œil un peu critique. C'est-à-dire qu'on a rencontré pas mal d'agriculteurs là, il y a un an et demi. On les a questionnés en disant, bah, alors vous, voilà, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire? On parle beaucoup du chanvre parce que c'est une culture qui est vraiment, elle a besoin de zéro de flotte et puis pas du tout de pesticides ni quoi, donc c'est une culture vachement intéressante. Bah, tout le monde dit, bah oui, pourquoi pas, nous on serait prêt à faire, mais une fois que j'ai fait ma culture en chanvre, bah, je la vends à qui, qu'est-ce que j'en fais?
En cherchant la fraîcheur, on a trouvé l'eau. Et en trouvant l'eau, on a trouvé le dialogue, on a rencontré, on a débattu et on a même rigolé.
Et tout de suite, nous allons écouter la proposition de Luna à partir de poèmes d'Isabelle.
D'après les mots d'Isabelle Darocha, un château dit d'eau. Je suis devenu le phare de vos campagnes, la tête bien pleine, au plus près des nuages, 16 000 au-dessus de vos champs, villes et villages. Nos fûts plantés dans la terre de vos collines, sentir le vent autour de ma tête, ça m'anime. Souvent, je me prends pour un arbre solitaire dont les racines cherchent la vie de cette terre. Le plus grand nombre ne me voit plus et me considère tel un objet déchu. Qu'importe ma structure, chanterelle, sablier ou champignon, à travers un réseau dont je ne suis qu'un humble maillon. Et depuis plus d'un siècle, je travaille du chapeau pour vous abreuver en ondes fraîches. D'après les mots d'Isabelle Darocha, l'eau. Toi, l'eau, en lac, dans un verre ou en ruisseau, je te dédie ces mots. Eau qui nous fait boire, eau qui alimente la Loire, eau qui tombe de là-haut, eau, tu es notre héros. Toi, l'eau, tu es sacré, il ne faut pas te gâcher. Toi, l'eau qui permet la vie, toi, l'eau, nous te disons merci. Au lavoir d'Isabelle Darocha. Les pierres du lavoir gardent le silence. Moussues, usées, le dos rond, fidèles comme de vieilles servantes, elles restent muettes sur le dessous des linges, le secret des corps, les bavardages anciens, les pleurs et les rires des lavandières. Les flots rapides croient emporter toutes les histoires, ce ne sont que des poussières, bribes enfantines. La mémoire reste gravée au cœur de la roche.
Merci à Luna de nous avoir proposé cette audition. Maintenant, nous allons écouter celle de Monsieur Martin.
Vous voulez voyager un peu ?
On a tous une relation à l'eau.
Bon.
Une histoire, une anecdote ou une sensation différente.
Une personnalité.
Elle se lie à nous dans tous ces états.
Au-delà,
et sur cette planète que nous habitons tous, humains et non humains, l'eau est cette source de vie qu'on se partage. Cette situation est de plus en plus critique, de plus en plus incertaine, avec une ressource de plus en plus inégale, et la source de nombreux conflits. On vient à assoiffer des populations entières pour faire fonctionner des data centers. Nous sommes dans cette zone critique où tous les risques entre cette ressource de moins en moins présente, qu'il faut aller chercher de plus en plus loin ou de plus en plus profond. Sur un autre plan, l'eau de mer, elle, glisse sa langue salée de plus en plus profond dans les terres.
L'idée d'expérimenter l'eau, enfin, c'est pas juste une théorie, l'eau c'est une réalité. Ça,
sans vouloir faire de jeu de mots, on ne résout pas le problème à la source. On va continuer
à... quelque chose à l'intérieur énergétique qu'on ne comprend pas bien.
À créer de nouveaux soucis, on va finalement juste additionner les moyens de résoudre finalement nos propres problèmes, les problèmes causés par notre façon d'habiter le monde. Et on va à aucun moment revenir sur nos façons de consommer, d'habiter. On va tout le temps améliorer et ajouter. On continue. Par ailleurs, on va continuer à épandre tout un tas de produits phytosanitaires, d'engrais, qui continuent à tuer nos sols, à tuer la vie qui, en général, qui va se trouver dans le sol et en amont, en aval, finalement. Ces molécules ne restent pas sur place, Le sol a d'ailleurs cette inertie à retenir et relâcher cette substance, des fois des années après avoir été épandue. On va retrouver d'ailleurs dans la petite Beauce un sol qui va mettre à jour 20 ans plus tard des produits qui sont aujourd'hui interdits et fortement fortement polluants. Donc ces risques sont bien présents, ces risques sont là depuis des années et donc il est urgent de sortir de ce déni mondial et arrêter de chercher à faire du profit finalement sur cette ressource primaire et commune à tous finalement. Et dans tous les cas, la transition va devoir se faire d'un moyen ou d'un autre, et autant l'accompagner au mieux. Il faut travailler ensemble pour trouver cet avenir meilleur et vivable pour tous. Et il faut trouver ce chemin pour bifurquer. Et aujourd'hui, on a une société qui a une telle inertie, finalement, une trajectoire tellement forte qu'il est difficile, finalement, pour quelques individus à aller à l'encontre, à aller à contre-courant, finalement, de ce qui fait aujourd'hui notre façon de vivre. Et la lutte est de plus en plus compliquée, de plus en plus dure de se faire entendre. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas perdre espoir. Il faut continuer à parler, à divulguer cette parole de l'eau. Je pense tout d'abord à sensibiliser les gens, à les mettre en contact avec cet élément, à créer des émotions, à créer des sensations qui permettraient de les faire changer de regard finalement sur cette ressource. Je pense que c'est une des meilleures façons qu'on puisse sensibiliser et aller dans cette sobriété de vie tant attendue.
Je plonge au bon moment, je ressors au bon moment, j'évite la vague qui approche, au contraire, je m'en sers. Je me lance. J'ai nagé, j'ai volé. Toi, je sais nager. J'ai nagé, j'ai volé. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur.
Et maintenant, à Inès de nous délivrer la critique du manque d'éducation autour du sujet de l'eau.
L'eau, c'est la ressource la plus importante dans le monde et c'est la ressource qu'il faut conserver et protéger au maximum en ce moment, notamment avec le réchauffement climatique et tout ce qui arrive vis-à-vis de l'eau. Mais on peut constater que dans les nouvelles générations et même dans les deux dernières, l'apprentissage de l'eau, il s'est perdu, que ce soit par rapport au nom des rivières ou même au sens d'écoulement des bassins versants et des fleuves et des océans. Ce manque d'éducation, en fait, c'est ce qui a conduit à un manque de civisme et de compréhension, du coup, des parlers de l'eau. Et c'est ce qui a conduit aujourd'hui, du coup, à beaucoup de non-respect vis-à-vis des rivières et des fleuves, des océans et de toute forme d'eau qui existe dans le monde. Et c'est dommage parce que c'est vraiment la ressource qui est présente partout et qu'on côtoie au quotidien.
que ce soit par rapport au sport, notamment ceux qui nagent ou qui font du kayak, que ce soit pour les activités domestiques. À la maison, on a constamment de l'eau qui coule, que ce soit pour la douche, pour cuisiner. Enfin, c'est vraiment, l'eau, elle fait partie de nous intégralement. Donc c'est vraiment dommage que les gens ne se rendent pas compte de cette richesse et que c'est vraiment important de la comprendre sous toutes ses composantes. Mais pas forcément de manière très technique, parce que forcément, on ne peut pas être expert en tout, et c'est pour ça qu'il y a des métiers qui sont dédiés à ce genre d'expertise. Mais l'eau, elle peut être abordée sous plein de différentes manières, que ce soit par l'art, notamment avec des artistes qui s'intéressent justement à l'eau, avec la photographie, la musique. Encore une fois, ça peut être par rapport au sport. Donc l'eau, il faut vraiment comprendre que c'est un bien public qu'il faut préserver impérativement. Et aujourd'hui, les gens, ils ont continué de grandir dans l'idée que leur besoin personnel doit devenir par moments plus important, alors que pas du tout. Dans le bassin du Beuvron, par exemple, on rencontre des habitants qui possèdent un bout de rivière, mais ça ne veut pas dire, par exemple, que la rivière, elle leur appartient. Et c'est dans l'intérêt public de l'entretenir et d'accepter que certains paysages privés dans le cadre de leur jardin vont peut-être être amenés à changer et à se transformer, parce que une rivière, elle passe son temps à évoluer, mais ça ne veut pas dire forcément que si un jour elle s'arrête d'écouler ou si un jour elle déborde, c'est quelque chose de négatif. Mais non, un cours d'eau, ça s'exprime, une goutte d'eau, ça s'exprime. Et dans tous les domaines, il faut comprendre que s'il y a certaines évolutions et s'il y a un bon respect, c'est parce que c'est ce qui doit arriver et c'est aujourd'hui ce que la population doit commencer à mener. C'est un apprentissage de l'eau et comprendre pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment primordial de comprendre toutes ces composantes et le respect qu'on doit avoir vis-à-vis de la goutte d'eau. Et c'est pour ça que parler de l'eau, c'est hyper important, parce que dans tous les domaines, on en parle, et il y a plein de manières de les aborder, et c'est génial.
Ok, merci Inès. Tout de suite, on va écouter la proposition de Nino à partir de collage de bois. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ?
Oui, merci Margot. Alors ce travail n'a pas pour but d'être exhaustif, hein, c'est juste prendre des bribes des entretiens qu'on a eus, et c'était surtout les paroles qui me semblaient les plus intéressantes, ou alors qui sortaient le plus du champ lexical de l'eau, mais ça montre que c'est un sujet qui peut nous égarer. Voilà. Bonne écoute.
Je cherche la boue avec leurs habitants, les habitants de la boue.
C'est un écosystème. Mmh. Dans lequel on doit, c'est un écosystème dans lequel on doit se considérer.
C'est un état vivant, c'est presque une bestiole, hein, la Loire. Ça bouge, l'hiver, ça gèle.
Tu vas t'occuper que de ce qui se passe chez toi sans tenir compte vraiment l'amont-l'aval. Ça n'a vraiment pas de sens.
D'appropriation de ce fleuve qui est assez phénoménal.
Les enfants n'ont pas le droit d'aller parce qu'ils vont salir. Et je me dis que sans le savoir, la personne qui demande à son enfant de ne pas marcher à tel endroit, c'est qu'elle sait qu'il y a de la boue et qu'elle sait qu'il y a un sol argileux, mais évidemment elle ne le nomme pas comme tel.
Moi, quand on parle d'eau, moi c'est ça que j'ai en tête. Enfin, c'est une eau un peu courante.
Si on se considère comme étant un élément du système, je pense qu'en fait on est plus heureux quand on est bête.
Mmh. On est dans un système d'interdépendance. Ça nous sort de l'isolement, ça nous sort d'une pensée individualiste et égoïste.
C'est un écosystème.
Donc voilà, sans transition, nous passons au travail de Margot. Bonne écoute.
Bonjour les filles, au micro on a Adélaïde qui a 10 ans et Madeleine Sophie qui a 8 ans. Aussi Juliette qui a 11 ans et Marie-Liesse qui a 10 ans. Les filles, je vais vous poser du coup quelques questions par rapport à l'eau et vous allez me répondre chacune de votre tour. Adélaïde, est-ce que tu sais d'où vient l'eau ?
Non.
Tu sais pas d'où elle vient ?
Non.
Et toi, Madeleine Sophie, tu sais ou pas ?
Non, je sais pas.
À votre avis, ça vient d'où? Ça vient du ciel? Ça vient des montagnes? Ça vient d'où?
Des océans.
Ouais.
Bah, des océans aussi.
Des océans aussi? Ok. Bah, Alice, est-ce que tu sais d'où vient l'eau?
Du source et de la mer et tout ça.
Ok, et Juliette?
Ça vient des fleuves et c'est peut-être provenu des lacs en Amérique.
Ok. Comment vous utilisez l'eau tous les jours chez vous à la maison?
Bah, pour la douche et pour boire.
Ok. Et toi, Mélodie?
Pour la douche et pour boire et pour se laver.
Ok.
En prenant des douches, en faisant la vaisselle, tout ça.
Ok, Juliette.
Bah ouais, du coup, comme ça, pour aller aux toilettes,
ouais.
Pour se laver et pour, du coup, boire.
Ok. Et si vous devez me donner trois mots en rapport avec l'eau, ça serait quoi? Quand je vous dis l'eau, ça vous fait penser à quoi?
Bah, à la mer,
ouais.
Aux océans,
ouais.
Et aux nuages.
Ok, et toi?
Aux océans, à la mer et aux fleuves.
Au fleuve? Ok.
La mer, le fleuve et...
Les rivières. Ok. Et toi, Julie?
La survie. Le fleuve et la propreté.
Ok. Merci les filles.
Voilà, c'était le travail de Margot et tout de suite, nous avons la chance d'être avec Baptiste qui va nous introduire son travail. Baptiste, t'écoutons.
À travers les paroles recueillies autour de l'eau, j'ai trouvé un écho à notre métier de paysagiste. Mais pour en parler, pour vous parler de ce que nous faisons, je ne vais pas utiliser notre blabla de la profession, je vais plutôt vous en parler à travers les mots des autres. Ceux qu'on rencontre sur le terrain, ceux qui font avec le territoire au quotidien. Dans cet exercice, le point de départ, c'était l'eau. L'eau pour arroser, l'eau pour se baigner, l'eau comme ressource, comme contrainte, comme plaisir, comme mémoire, comme paysage. Et chacun l'a raconté à sa manière. L'agriculteur nous dit « J'ai ce chiffre, il m'indique une quantité, je vois bien que la ressource diminue. Demain, elle ne sera peut-être plus là. » L'élu nous dit « Moi, j'aimerais défendre une position. Il y a un engagement à prendre, les enjeux deviennent politiques. » La technicienne parle d'accessibilité, de tourisme populaire, de gestion, de dimensionnement. Trois regards, trois métiers, trois manières d'entrer dans le sujet. Et pourtant, une même matière, l'eau, est ce qu'on en fait. Mais ces regards ne se croisent pas toujours, ils avancent chacun sur leur propre ligne, avec leur propre rythme. L'un pense au jour, l'autre à l'année, le dernier à la décennie. Ils n'ont pas forcément le temps de s'écouter. Parfois, ils ne savent même pas qu'ils partagent le même territoire. Et c'est là que le paysagiste intervient. Pas comme un arbitre, pas comme un sachant, mais comme quelqu'un qui entre en croisement. Faire le lien, ça commence par écouter. Écouter les paroles, mais aussi les silences. Ce qu'il est dit et ce qu'il n'est pas. Et qui essaie d'entendre ce qui résonne entre les discours. Entrer en croisement, ce n'est pas aplanir les différences, ni chercher un consensus à tout prix. C'est faire dialoguer les récits. Chercher les points d'appui, les tensions fécondes, les possibles partagés. Notre rôle, c'est de créer les conditions où ces paroles peuvent coexister, sans se réduire. C'est de proposer une forme, une représentation, une lecture, un projet, qui puisse accueillir des visions différentes. Sans les faire disparaître. Aligner les volontés, ce n'est pas forcer à s'aligner, mais proposer un fil, un chemin de traverse où chacun retrouve une part de son propre langage. Ce que fait le paysagiste, ce n'est pas parler à la place, c'est faire place, traduire sans trahir, relier sans dominer, et parfois, juste, écouter ce que personne n'avait encore entendu. Parce que ces paroles qu'on croyait éloignées, elles ont, en réalité, tant de choses à se dire, et notre travail, c'est de leur donner une chance d'exister ensemble dans le paysage.
Et maintenant, nous allons écouter Camille avec son jeu des mots.
L'eau. Quantité, qualité, nature, imperméable, abri, arbre, priorité, flore, trouble. aménagement, aménageur, infiltration, berge, érosion, politique territoriale, priorité, consommation, privatisation, milieu, lessivage, faune, flore, l'eau, oxygénation, santé, tuyaux, poissons, ressources, gouttes, zone tampon, risque, fraîcheur, liquide, limpide, inondation, qualité, quantité, accès, navigation, l'eau, or, valeur, déchets, financeur, bruit, loisirs, rivière, travaux, sol, privatisation, saison, gestion, lac, agence de l'eau, biodiversité, ombre, bassin versant, barrage, anguille, climat, source, pluie, Loire, Cis, Cosson, Beuvron, national, régional, local, montagne, maîtrise d'ouvrage, agriculture, pisciculture, torrent, ruissellement, quantité, or, structure du sol, gouttes, castor, filière, bouteille, quantité, or, l'eau.
Voilà, c'était le travail de Camille Langry. Tout de suite, nous allons passer au travail de Charlie Alba, qui s'appelle Rivière Caractère. Nous avons l'honneur d'être avec Charlie. Charlie, est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur ton travail ?
Oui, bien sûr, merci Nino. En fait, ce travail s'attache tout simplement à redonner aussi un caractère vivant, un caractère de mouvement à toute cette eau qui caractérise, qui compose notre territoire. Et je pense qu'il est essentiel d'en parler et de ne pas oublier tout cet écosystème et qui fait sens dans le paysage.
Merci beaucoup Charlie. Place à l'écoute.
Avec l'eau.
Ici, vous avez écouté
un séminaire qui vise à, enfin, qui s'appelle parler entre parenthèses S l'eau, c'est ça.
Vous avez parlé de l'eau.
Vous avez parlé de l'eau, c'est ça.
Vous parlez de l'eau. Vous parlez de l'eau.
Parler entre parenthèses S.
Vous parlez de l'eau.
Je pense que quand on parle de l'eau, c'est un caractère, une rivière vivante, énergétique, fougueuse, esthétique. Je pense que quand on parle de l'eau, on a un peu ce rythme fougueuse, une eau plutôt calme. Il se passe quelque chose à l'intérieur. L'eau coule, très homogène, et des petits contre-courants, un écosystème, 15 mètres cubes, 3 mètres cubes, 600 mètres cubes, 2000 mètres cubes. La capacité qu'a l'eau, la rivière, à éroder tout ça et à créer un vallonnement, une gorge, des pics, des trous énergétiques. Et cette rivière, elle a été difficilement domptable. Une ébullition, là, quand il y a des crues. C'est pas juste une théorie, l'eau, c'est une réalité. Ça. Il y a un mystère de l'eau, un mystère de la rivière. Droite comme un canal, ou alors il va y avoir des contre-courants, il y a une esthétique de cette eau. Il y a cet endroit un peu magique là, le sauvage, où le mystère va se cacher. C'est là où tu auras les poissons les plus gros, les animaux les plus fougueux. Le caractère de ces rivières, et ce caractère-là, mais en fait, c'est ça qui a créé tout le paysage.
Et c'était le travail de Charlie. Merci Charlie, nous allons ensuite commencer le débat collectif. Mais avant cela, jingle.
Alors, je plonge au bon moment, je ressors au bon moment. J'évite la vague qui approche, ou au contraire, je m'en sers.
Nous ouvrons le débat. Alors, la première question, je suis avec mes deux invités, Grégory. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Et nous allons être rejoints par Lucie également. Donc, la première question moi, que j'ai envie de vous poser, comme ça, là, à brûle pour point. Quel est votre rapport à l'eau? Un souvenir d'enfance? Quelque chose comme ça? Grégory, peut-être, tu veux commencer?
C'est très intéressant comme première approche, car c'est vrai que l'eau invoque quelque chose de très sensible et donc des souvenirs assez forts. C'est vrai que mon rapport à l'eau est né un peu dans l'eau retirée de son milieu naturel, j'ai envie de dire, grâce notamment à la natation, à la piscine. Une relation très fraternelle que j'ai eue avec l'eau dès ma plus jeune enfance. C'est vrai que c'est un lien finalement en dehors du naturel, mais qui a invoqué vraiment beaucoup de choses dans mon enfance.
Très bien, parce qu'il est à noter quand même que Grégory, tu viens de la région de Lyon, donc l'eau, tu n'es pas si proche, alors que finalement Lucie, toi, tu nous viens tout droit de Plougastel. Plougastel-Laoulaz, donc l'eau a une part importante si on veut dans
les tous les jours. Et moi je peux dire que le rapport à l'eau, moi avant tout c'était l'eau salée, hein, une presqu'île entourée de l'Atlantique, bon 5 minutes tout ça, mais on peut dire que je me suis baignée dans la Méditerranée à 20 ans et j'ai été très étonnée. 20 degrés la Méditerranée, pas de vagues, pas de marée. Moi j'ai remonté ma serviette comme tout breton qui se respecte, voilà, et on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, il n'y a pas de marée ici. J'étais très étonnée. Et arrivé dans la Loire, pareil, l'eau très très chaude, pas de vagues. Quand tu bois la tasse, elle est juste parfaitement neutre. Très très étonnant comme rapport, mais j'adore l'eau. Un vrai poisson, je dirais même plus une carpe.
Très bien, donc vraiment ça me fait plaisir, tous ces différents témoignages qu'on a autour de l'eau. Moi si je peux parler en mon nom, je me permets.
Je t'en prie, Lino. Toi qui es nantais.
Nantais, un peu breton, partout. J'ai vécu aussi dans le sud, mais du coup, c'est vrai que je suis plus proche de l'Atlantique, donc tout ce qui est les marées. Tout ça, c'est. Est-ce que après, je me limiterai à dire que l'eau, c'est seulement la mer? Peut-être pas, finalement.
Ouais, non, ce serait un petit peu réducteur, peut-être. Hein.
Je suis un peu ligérien aussi.
Mais, ah là là.
Nantes.
Bien sûr.
Blois. Voilà. En tout cas, merci pour cette ouverture de débat. Y a-t-il une autre question que nous pouvons... Peut-être le souvenir d'enfance, peut-être qu'on peut rebondir
ouais.
là-dessus.
Un souvenir d'enfance par rapport à l'eau.
Est-ce que mes invités ont un souvenir d'enfance?
Ouais, pareil, enfance Bretagne, hein, mais c'est drôle. J'ai failli me noyer une fois quand j'étais petite, parce que j'ai glissé sur une algue, sur un quai, et je me suis plongée la tête la première dans l'eau. Et ma mère plongée, tout habillée pour me récupérer, tout ça. Et en fait, je me rappelle m'être sentie très, très apaisée dans l'eau, même si, en fait, il y a eu un demi-instant de « Ah, je suis bien », avant de me dire « Je vais me noyer, je vais mourir ». Mais franchement, pas mal. Je pense que c'est pas la mort la pire.
C'est vrai que c'est très intéressant, ces rapports à l'eau dans la peur, finalement. La peur de la mort, la peur de la noyade. Et ça invoque, je pense, chez tout le monde, un peu cette crainte de pas voir le fond de l'océan quand on se baigne. Et finalement, il y a un peu ce paradoxe entre l'envie d'aller se baigner et puis la peur, finalement, d'aller se baigner.
Très bien, merci. J'avoue que pour moi, l'eau, c'était plus quelque chose... Le premier souvenir que j'en ai, c'est la punition. Hein. L'eau qui vient calmer un peu, l'eau calme. Je me souviens, c'était une sortie quand j'étais petit avec mes parents. Et devait être insupportable, je ne sais pas. Mais on m'a mis sous une fontaine d'eau froide pour un peu calmer mes ardeurs. Et là, en fait, l'eau a une image plutôt de quelque chose qui vient apaiser les gens, finalement. On n'est pas du tout dans la sacralisation de l'eau. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord. Hein. La baignade, c'est avant tout... Mes premiers souvenirs, c'est avant tout des souvenirs de baignade. Hein. Pas plus tard qu'hier soir, baignade dans la Loire, quoi. C'est du plaisir, c'est des bons moments partagés.
C'est vraiment, oui, la détente, mais dans une autre approche hein, quand même, que la punition, c'est le plaisir de partage, c'est le rendez-vous commun, voilà.
Tout nu la baignade ?
Oui.
Merci. Charlie, tu as un souvenir d'enfance par rapport à l'eau ?
Bah, ici, voilà, vous vous adressez, je vous le dis, à un enfant de la Loire. Je viens du Val-de-Loire, à proximité d'Orléans, voir les champs, très précisément, un tout petit village. Et toute mon enfance, j'ai vu l'eau changer, son écosystème évoluer. Et il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai même vu la Loire, par exemple, sous la glace. On se serait cru complètement ailleurs, et pourtant, on était toujours au même endroit dans le Val-de-Loire. Alors conserver ces changements, conserver ces crues, attendre que l'eau monte, attendre que l'eau descende, je pense que ça fait partie de l'expérience de l'eau dans ces territoires.
De la Loire. Et qu'on considère le fleuve comme très sauvage. Est-ce que tu l'as vu évoluer au fil de tes baignades, de ton rapport à l'eau ?
Eh bien, je ne me suis pas souvent baigné, mais on l'a toujours dit sauvage. Alors, toutes ces préconisations qu'on présentait à faire attention quand on va se baigner, parce qu'il y a ces tourbillons dans la Loire qui font qu'on peut s'enfoncer et se noyer. Eh bien écoutez, je pense qu'aujourd'hui je ne trouve plus ce fleuve si sauvage, puisque notamment on trouve ces digues au bord de l'eau. Et il est important de notifier que ces digues sont une emprise de l'humanité sur ce cours d'eau, bien que son lit reste très sauvage, mais une biodiversité en déclin tout de même.
On peut donc confirmer les propos de Bruno Marmiroli sur le virage ontologique de la baignade.
Mais tout à fait, je remercie ce cher Bruno Marmiroli de nous faire part de cette réflexion sur le virage ontologique. Mais je vous retourne la question à vous, nouveau né de la Loire, quel est votre rapport à ce territoire et à son eau ?
Alors moi je ne suis pas un nouveau né de la Loire, en tout cas je suis peut-être un nouveau-né de la Loire au niveau de Blois, c'est-à-dire plus en amont, mais moi j'ai connu la Loire avec Nantes, donc c'est-à-dire avec l'histoire de Steve, avec tous les dangers qu'elle représente. Et donc oui, c'est un peu nouveau pour moi. Mais le fait déjà de me baigner, je suis baigné pour la première fois avant-hier.
Félicitations.
Merci. Et ça m'a changé, quoi. J'avais ce rapport finalement à la Loire qui a totalement changé. Je n'étais plus dans la crainte, elle n'était plus si lointaine. Le fait de pouvoir la traverser, même si se baigner, pénétrer la Loire, c'était vraiment génial. Voilà.
Mais c'est vrai que moi aussi, en tant qu'enfant de la Loire, hein, tout juste né, la baignade, hein, c'est vraiment le premier lien que j'ai eu et que j'entretiens encore récemment. Pas plus tard qu'hier, comme le disait tout à l'heure Nino, baignade dans la Loire et dans le plus simple des appareils. Pardon.
Merci Baptiste. Bon, une autre question peut-être. Charlie, est-ce que tu as envie de poser une question ?
Oui, bien sûr. Nous attachons ici beaucoup à la Loire, mais est-ce qu'on peut s'attacher peut-être à ses affluents ? Quel caractère vous leur donneriez ? Au Beuvron, au Causson, à la Cisse ? Comment vous les aborderiez ? Comment vous les avez déjà abordés ? Quel caractère on leur donne ? Est-ce que parce qu'ils sont moins grands, ils sont moins importants ? J'ouvre le débat.
Baptiste. C'est vrai que c'est intéressant parce que la Loire, elle est avant tout très sanctuarifiée. Hein. C'est un paysage patrimoine, on la voit beaucoup comme ça. Alors que ces affluents, hein, des fois, ils sont canalisés, comme on l'a vu avec la Cisse, hein, notamment tout au long de notre cursus. Très, très peu visibles, en fait, sur le territoire, couvertes, diguées. Donc, je trouve que c'est un rapport plutôt technique qu'on a avec elles, contrairement à la Loire, où c'est avant tout un rapport sensible. Donc, je pense que c'est vraiment cette différence qui marque.
Pour compléter plutôt l'approche de Baptiste, alors c'est vrai qu'elle est couverte, et du coup, on sait où sont ses affluents sans voir l'eau. Je m'explique, avec la répissive notamment. On regarde des terres agricoles en Beauce, et qu'on voit que justement, il y a ce... Pardon, j'ai perdu mes mots. il y a cette clipisylve, et ben en fait on voit l'eau sans la voir. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Après moi je fréquente pas énormément ces affluents. Après sur Nantes il y a la Sèvre et l'Erdre aussi, qui sont deux affluents de la Loire que j'ai pu pratiquer aussi un peu, mais pas pour la baignade, mais qu'on repère plus à travers la végétation, quoi. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter cette approche.
Mais j'avais une question aussi pour vous, messieurs. C'était on parle beaucoup de notre rapport passé, mais au vu des enjeux futurs et de la question de l'eau, on pourrait se demander quels sont les rapports que vous aimeriez entretenir dans le futur. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir même du militantisme dans le rapport à l'eau, dans la baignade, notamment par exemple dans la Loire, comme on parlait tout à l'heure, qui est interdite au final, hein. Qu'est-ce que vous imaginez dans votre futur rapport à l'eau par rapport à votre métier et votre vie personnelle?
Question très intéressante. Charlie, peut-être
Oui, oui. Ben, après quelques échanges, par exemple, avec un paysagiste qui a travaillé, qui ne travaille uniquement sur des questions liées à l'eau, liées à l'hydrologie, à tous ces systèmes, je trouve très intéressant dans l'approche d'un ou d'une paysagiste de faire tout ce travail du projet, de redonner sa place à l'eau. Tout en faisant attention, comme il a pu nous dire, ce paysagiste, dans un projet, il n'y a pas juste de l'eau, il y a tout ce qui l'accompagne sur son caractère. Et je pense que c'est un rapport qu'il faut absolument entretenir avec l'eau, respecter son caractère, respecter ses traits d'humeur. Voilà, on vient le personnifier ici, ce cours d'eau, et c'est ce que s'attache à faire notamment les parlements de Loire. Et peut-être que ça peut être une approche qui peut se perpétuer et se répéter sur d'autres cours d'eau, sur d'autres rivières en France et dans le monde entier.
Très belle parole, messieurs. Je ne sais pas si vous voulez qu'on clôt le débat là-dessus, qu'on fasse introduire de nouveaux invités. Je vois que Grégory pourrait potentiellement nous rejoindre. Lucie aussi, si tu veux venir pour le débat. Léon aussi, nous pouvons lui demander. C'est histoire d'avoir un avis assez... de varier un peu les avis.
Grégory reprend sa place.
Super, on accueille Grégory Nas de Twiss.
Bonjour à tous, bonjour.
Bonjour Grégory.
Grégory.
Super. Alors Grégory, là nous échangeons un peu autour de la Loire. Toi, est-ce que tu as envie de nous parler d'autres fleuves finalement que de la Loire, vu que tu ne viens pas de cette région, qui est la région centre et...
Oui, tout à fait, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, je suis lyonnais avant tout. Malgré moi, immigré à Blois, c'est plutôt le Rhône qui m'a porté toutes ces années avec autant de souvenirs que de mauvais souvenirs finalement. Les fleuves, notamment en France, sont plutôt un peu nos alliés finalement. On se baigne, on les suit, on va jusqu'à la mer avec eux. Et finalement, ils reprennent peu à peu leur place au sein de notre société de plus en plus ces dernières années avec les projets de renaturation. On pense notamment plutôt côté Bretagne cette fois-ci au projet de renaturation et de travail hydrique tout en finesse réalisé notamment par des grands hydrologues comme Bruno Ricard. Et on pensera finalement à justement redonner cette place à l'eau, cette place au fleuve, qui me semble primordiale.
Super, merci. Est-ce que le Rhône est un fleuve particulièrement endigué
Dans son histoire, oui, de par justement la place que Lyon a pris autour de lui, puis Avignon, enfin Vienne, toutes les villes qui sont formées tout autour du Rhône, mais de plus en plus, notamment menées par la métropole de Lyon, le fleuve reprend ses droits, les endroits endigués sont de plus en plus renaturés, les digues sont cassées et effacées de plus en plus pour redonner un côté très naturel au fleuve et surtout pour pallier au fait des régulations de l'inondation potentielle, etc.
Merci Grégory. Baptiste, tu veux réagir en attendant ?
C'est vrai que ce qui est vraiment très marquant, hein, c'est la qualité de la Loire. On le voit vraiment, cette qualité du fleuve sauvage, en fait. Tout ce qui produit, tout l'imaginaire qui entoure, et aussi l'évolution que ça produit en fait, dans le territoire. C'est un peu impressionnant. On le voit, nous, en tant qu'habitants blésois, au quotidien, voir les rives évoluer. C'est quand même assez marquant et assez beau, hein, au final. Ça rythme les saisons. Ça s'ancre vraiment dans le temps, quoi. Il y a vraiment une question de la temporalité qui est très présente. Moi, étant de région parisienne à l'origine, la Seine est totalement endiguée, hein, et ses affluents aussi, la Marne, etc. Et on n'a pas du tout le même rapport à l'eau, au final, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant, cette question qui se pose de réensauvagement des fleuves.
Merci Baptiste et merci à tous pour le débat. On va venir clore cette émission.
Oui, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour le mot de conclusion, nous aimerions remercier très chaleureusement le Pays des Châteaux qui se place depuis maintenant une dizaine d'années aux côtés de l'École de la Nature et du Paysage pour porter ces ateliers réflexifs sur l'évolution des politiques publiques et ce que vous avez entendu pendant cette émission. Et donc en la personne notamment de Xavier Laurière qui est son directeur, nous tenons aussi à remercier toutes les personnes que les étudiants ont pu rencontrer qui ont donné généreusement de leur temps et de leur pratique professionnelle. Ils étaient élus, techniciens, techniciens de rivière, agriculteurs, artistes, et chacun depuis leur métier leur a partagé un bout de leur vision. Et puis surtout, je remercie aussi très chaleureusement les étudiants et étudiantes qui ont participé à cet atelier. Donc ce sont les quatrièmes années de l'école, et notamment les quelques-uns que vous avez entendus au micro aujourd'hui, en direct du Comice agricole de Blois. Pour rappel, vous pouvez entendre une autre émission et avoir plus d'informations sur le site internet de l'École de la Nature et du Paysage. À bientôt pour de nouvelles aventures.
J'ai nagé, j'ai volé. Toi, je sais nager. J'ai nagé, j'ai volé. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur.